tout de suite le journal avec vous, Claire Flochel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Après la mobilisation du personnel des EHPAD hier, ce sont les urgentistes qui repartent au combat. Nouvel appel à la grève de l'intersyndicale et un rassemblement prévu ce matin dans Paris jusqu'au ministère de la Santé et au départ de Bercy.
Plus de 100 000 copies du bac bloquées par des professeurs en grève qui refusent d'envoyer les notes.
La publication des résultats prévus pour vendredi pourrait donc être perturbée. Nous faisons le point. Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, remet son titre en jeu à la fin du mois, à l'instar de ses collègues au poste clé. Explication d'Anne Fauquemberg dans ce journal. Le gouvernement chinois condamne fermement le saccage hier du Parlement de Hong Kong, de même que Carrie Lam, la chef du gouvernement hongkongais. Le calme est revenu ce matin après l'intervention de la police pour évacuer les manifestants. C'est une grève inédite par sa durée, 4 mois et par son ampleur, plus de 150 services d'urgence concernés partout en France. Et même si les syndicats reconnaissent des avancées, le personnel soignant est invité à sortir dans la rue encore ce mardi en fin de matinée. Un cortège qui partira de Bercy et jusque sous les fenêtres du ministère de la Santé. Tara Schlegel, les 70 millions d'euros annoncés par Agnès Buzyn le 14 juin dernier n'ont donc pas calmé la colère des services.
La prime de dangerosité, qui s'élèvera à 100 euros net par soignant chaque mois, n'a pas convaincu les grévistes. Ils veulent toujours une revalorisation de salaire et non une aide ponctuelle qui n'entre pas dans le calcul de leur retraite. Après l'annonce de cet effort financier, une quarantaine de services d'urgence supplémentaires ont même rejoint le mouvement. 153 hôpitaux sont mobilisés à présent. Car le compte n'y est pas, ni en termes de rémunération, donc ni en termes d'effectifs. Candice Lafarge, porte-parole du collectif Interurgence, affirme que les agences régionales de santé n'ont pas pris la mesure de la crise.
On reconnaît qu'effectivement, à la PHP, Martin Hirsch et son équipe nous fournissent des efforts notables. Seulement, nous regrettons que dans les régions avec les ARS, ce soit au statu quo, quoi. C'est-à-dire que les conversations avec les ARS sont quasi inexistantes et que les ARS ne font pas remonter leurs problèmes au ministère et que le ministère, du coup, n'en est pas informé. Donc en fait, personne ne joue le jeu.
Voilà pourquoi le collectif espère être reçu par la ministre en personne. Les représentants de Sud, de la CGT, de Force ouvrière feront aussi partie de la délégation. À l'aube d'un été qui s'annonce particulièrement torride, les urgentistes espèrent un geste à la hauteur de leur désarroi.
Tara Schlegel, spécialiste santé à France Culture. Les professeurs dans les lycées mobilisés une nouvelle fois contre la réforme de l'éducation nationale. Certains vont bloquer le regroupement des résultats du bac en ne renseignant pas les notes des copies qu'ils corrigent, des données qu'ils doivent normalement envoyer au ministère avant ce midi, alors que les résultats de l'examen national, eux, doivent être dévoilés aux candidats vendredi. Peut-être des perturbations attendues. Donc, Hakim Kasmi.
C'est pour dénoncer la réforme du bac, qui perdra selon lui sa dimension nationale, que Pierre, professeur d'histoire-géographie à Melun, en région parisienne, ne rendra pas aujourd'hui les 77 copies du bac qu'il a pourtant bien corrigées. Une décision qu'il assume parfaitement, malgré l'éventuelle sanction de la part du ministère.
Moi je crois pas qu'on fasse ça contre les élèves, ce serait absurde alors qu'on les a préparés toute l'année, mais plutôt pour tous ceux qui vont venir l'année suivante et qui n'auront pas le bac national, qui auront cette épreuve de bac avec la nouvelle réforme du lycée, c'est-à-dire un bac permanent et qui sera étiqueté à leur établissement d'origine, c'est-à-dire potentiellement très dévalorisé, notamment dans le lycée dans lequel je suis, ce à quoi je suis opposé évidemment.
Selon le SNES, ce sont 100 000 copies qui seraient retenues à travers le pays, un chiffre qui n'inquiète pas Jean-Michel Blanquer, pour qui les résultats du bac seront bien rendus en temps et en heure vendredi.
Nous savons nous organiser en tant que ministère de l'Éducation nationale. J'ai une très grande confiance dans l'immense majorité des professeurs de France qui ont évidemment une très grande conscience professionnelle, un très grand sens du service public et qui n'ont aucune envie de contribuer au sabotage d'un examen pour lequel ils ont préparé avec passion leurs élèves. Donc c'est avec la même confiance que je dis que nous aurons là aussi les résultats des brevets et du baccalauréat. On a le droit d'avoir des points de vue différents sur des réformes, mais on n'a pas le droit d'avoir les élèves pris en otage de ces différences.
Malgré tout, la prudence reste de mise, car c'est jeudi que les jurys du bac doivent se réunir pour harmoniser les notes. Or, s'ils ne les ont pas, des retards ne sont pas à exclure dans la promulgation des résultats.
Hakim Kasmi pour France Culture. Une trentaine de magasins Conforama menacés de fermeture l'an prochain en France. La direction prévoit de supprimer 1900 emplois. Un comité central d'entreprise se tient ce matin. Il n'a jamais été testé en France et pourtant le bracelet électronique anti-rapprochement est bien inscrit dans la loi. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé hier vouloir le généraliser. Il s'agit de lutter contre les violences faites aux femmes. Wafia Kenich.
C'est un bracelet électronique comme les autres, sauf qu'il sert à avertir la police lorsqu'un ex-conjoint violent s'approche trop près de sa victime. La future généralisation de ce bracelet est une avancée très importante pour Éric Corbeau, procureur de la République de Pontoise. En avril dernier, le magistrat avait demandé à ce qu'il soit mis en place. Selon lui, cet outil mis à la disposition de la justice pourrait permettre de prévenir les violences les plus graves. Car pour le procureur, la plupart des féminicides sont annoncés par leurs auteurs.
Souvent, il y a eu des premières violences, souvent il y a eu des menaces, il y a eu des menaces de mort. L'auteur présumé ou l'auteur condamné sera porteur d'un bracelet qui le signalera à partir du moment où il entrera dans un périmètre de protection autour de la victime et qui permettra l'intervention notamment des forces de l'ordre.
Ce bracelet a fait ses preuves, notamment en Espagne. L'Espagne qui est allée beaucoup plus loin en votant 200 mesures pour mieux protéger les femmes victimes de violences.
Mais qu'en Espagne, alors que le nombre de féminicides était largement aussi important que celui en France, il a baissé de manière très importante ces dernières années et ils ont un taux de féminicide bien moins important que celui qu'on a en France.
Depuis la mise en place en 2005 de ce bracelet, aucune femme bénéficiant de cette surveillance électronique n'a été tuée.
Précision signée Wafia Kenich. Après l'évacuation musclée de militants écologistes vendredi sur un pont à Paris, une enquête est confiée à la police des polices. Le parquet de Paris ouvre cette enquête préliminaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Des CRS avaient notamment aspergé les manifestants de gaz lacrymogène à bout portant. Stéphane Père.
Face au tollé suscité par les images de l'intervention des CRS gazant des manifestants écologistes assis sur le pont de Sully, la justice, le parquet de Paris, ouvre donc plus de trois jours après les faits une enquête pour clarifier les conditions de l'intervention des forces de l'ordre. C'est à la police des polices que le parquet de Paris confie cette enquête préliminaire. L'IGPN sera chargé de reconstituer la chaîne de commandement qui a donné le feu vert aux CRS pour intervenir en utilisant, à bout presque touchant, leur bombe lacrymogène sur le visage de ces militants. Selon nos informations, et sans forcément attendre les résultats du rapport demandé par Christophe Castaner, cet ordre venait des responsables de la permanence de la DOPC, une direction de la préfecture de police de Paris, chargée du maintien de l'ordre et de la circulation. Un ordre qui a pu être donné, mais l'enquête doit le préciser, à cause des gros problèmes de circulation dans le quartier lors de cette manifestation. L'enquête de l'IGPN va aussi s'intéresser au rôle des manifestants écologistes présents sur la vidéo, mais aussi hors vidéo, dans tout ce quartier entre l'Institut du Monde Arabe et la Bastille.
Stéphane Père.
Le groupe La République En Marche va passer le mois de juillet à renouveler les postes clés de l'Assemblée nationale.
Une cinquantaine de mandats sont remis en jeu. Président de commission, questeur, vice-président de l'Assemblée nationale ou encore président de groupe. La campagne de renouvellement, qui est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale, va durer trois semaines. Anne Fauquemberg.
Ce sont un peu les mi-termes pour les députés LREM et le plus gros enjeu se situe à la présidence du groupe occupé depuis septembre dernier par le député de Paris, Gilles Legendre. Alors à ce stade, un candidat est déjà déclaré, François Jolivet, député de l'Indre. Deux autres y réfléchissent sérieusement, Florian Boudier, élu en Gironde, et Perrine Goulet, députée de la Nièvre. Parmi leurs motivations, la volonté de créer de nouveaux sas de discussion en interne pour éviter que les différentes sensibilités se déversent en place publique, mais aussi une meilleure gestion des ressources humaines. Perrine Goulet, par exemple, elle se désole que certains députés accumulent les casquettes tandis que d'autres n'obtiennent aucune responsabilité. Elle dénonce aussi l'absence d'informations sur ce qui se dit en réunion de bureau et le manque de synergie avec le MoDem. Mais les 304 députés LREM devront aussi désigner les présidents des 6 commissions sur les 8 détenues par le parti. Si depuis début mai, on sait que les sortants pourront se représenter, ce qui en atténue le suspense, il devrait toutefois y avoir entre 3 et 4 candidats par poste, ce qui fait dire à un député que la campagne s'annonce longue, trop longue, qu'elle risque même de tourner au feuilleton, surtout s'il y a des candidatures de réaction les unes par rapport aux autres.
Anne Fauquemberg, l'élection pour le renouvellement des postes aura lieu la semaine du 22 juillet. Eux s'y récoltent aujourd'hui à Bruxelles, puisque la première nuit blanche n'a rien donné. Les dirigeants européens à nouveau réunis en fin de matinée pour distribuer les postes clés de l'UE. Et dans ces négociations sans fin, il en est une qui apparaît comme la grande perdante. C'est la chancelière allemande Ludovic Piétenu.
Angela Merkel ne mène plus la danse. Longtemps décrite comme la chef de gouvernement la plus puissante en Europe, celle qui détient le record de longévité comme dirigeante parmi les 28 et même à l'échelle du globe, a beaucoup perdu de sa superbe. Pour certains observateurs allemands, il n'est pas nécessaire d'invoquer ces deux récentes crises de tremblement en public pour expliquer la baisse de son aura. Elle a tout simplement perdu du crédit auprès des Européens et de ses alliés conservateurs depuis qu'elle a annoncé qu'elle ne briguerait pas de cinquième mandat et que sa vie politique prendrait fin dans 2 ans environ, en septembre 2021. Tout le monde sait qu'une époque se termine. Commentaire de l'hebdomadaire Der Spiegel, jusqu'à présent, elle pouvait être presque certaine que ses propositions seraient au moins entendues et dans de nombreux cas mises en œuvre sans grande difficulté. Mais aujourd'hui, elle a face à elle des adversaires coriaces et souvent intransigeants. Le groupe de Visegrad, composé de la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, auquel s'ajoute son bras de fer avec la France, et la volte-face de beaucoup de ses amis au sein du PPE, le Parti Populaire Européen, le groupe des conservateurs, qu'elle n'arrive même plus à convaincre.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture en Allemagne. À Hong Kong, la jeunesse continue de défier le pouvoir central chinois. 22 ans après la rétrocession du territoire à la Chine, c'était le 1er juillet 1997, de nombreux manifestants ont envahi le parlement local hier avant d'être finalement délogés par les forces de l'ordre. Des violences qui interviennent après 3 semaines de mobilisation inédite. Florence de Changy.
La très longue journée du 22e anniversaire de la rétrocession à la Chine, au cours de laquelle plus d'un demi-million de personnes ont défilé paisiblement, restera marquée par la mise à sac du Letchko, le parlement local, par quelques centaines de très jeunes manifestants qui se sont acharnés sur les baies vitrées du bâtiment pendant de longues heures. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a pris la parole à 4 heures du matin du quartier général de la police. Elle n'a réagi que pour condamner cette violence et n'a toujours pas accepté de céder à aucune des revendications des manifestants. Le camp démocratique dénonce un piège dans lequel sont tombés les jeunes. Li Chuk-yan est le président du Parti travailliste et fait partie des piliers de l'opposition.
Oui, évidemment que c'est un piège. Quand vous regardez la façon dont la police a opéré et le fait que quand les jeunes ont pénétré dans le bâtiment, la police les a laissés faire. Où ailleurs dans le monde aurait-on laissé se passer une chose pareille ?
Le seul fait que ce nouvel épisode de violence, comme celui du 12 juin, ait enfin fait réagir le gouvernement, semble prouver que, comme le regrettent les manifestants pacifiques depuis de nombreuses semaines, le gouvernement ne réagit qu'à la violence.
Un reportage de Florence de Changy à Hong Kong. Pékin dit soutenir les poursuites contre les auteurs d'actes de violence. Je cite l'Union européenne, elle appelle à la retenue et au dialogue. La Maison Blanche condamne ce matin l'attentat d'hier à Kaboul, revendiqué par les talibans. Attentat cruel, dit Washington. Cette attaque à la voiture piégée et les tirs dans la capitale afghane ont fait 6 morts et des dizaines de blessés, dont une cinquantaine d'écoliers. Quel avenir pour le navire humanitaire Sea-Watch ? 3 jours après avoir débarqué avec 41 migrants à bord à Lampedusa, sans autorisation italienne, sa capitaine allemande a été arrêtée. Berlin demande sa libération, tandis que Matteo Salvini l'a décrit comme une pirate. Pendant ce temps, pour le bateau et le reste de l'équipage, c'est l'incertitude. Timur Özturk.
Le Sea-Watch va-t-il repartir ? Difficile pour Thiel, un volontaire allemand, de répondre à cette question.
Le bateau est saisi par les autorités italiennes, ce qui veut dire que nous ne contrôlons plus les déplacements du navire.
Thiel a quitté le navire, il est à terre, à Lampedusa, mais les 2/3 de l'équipage sont toujours en mer, au large du port. C'est le cas d'Isis, une mécanicienne française bloquée à bord.
Ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est de ne pas avoir de deadline, de ne pas savoir à quel moment on va pouvoir rejoindre la Sicile.
Les marins doivent rester pour entretenir le navire, même s'ils sont éprouvés par ces dernières semaines. Ariane, seconde mécanicienne, attend une hypothétique relève de son ONG.
On attend de savoir s'ils vont venir, quand ils vont venir, où est-ce qu'ils vont venir. Et à ce moment-là, les membres indispensables du navire pourront partir.
Pour autant, quand on demande à Ariane si elle s'engagerait pour une nouvelle mission de sauvetage, la réponse est franche.
Je ne sais pas comment l'avenir va se présenter du coup pour le navire ou l'organisation, mais tant qu'il y aura des gens qui seront en péril en Méditerranée, la question se posera pas pour moi. On nous a appris en mer que l'assistance est quelque chose d'obligatoire.
L'avenir du Sea-Watch est désormais entre les mains de la justice italienne, tant que ses enquêteurs n'en auront pas terminé avec le bateau.
Timur Öztürk. Après la canicule, place aux orages. Ils ont frappé hier soir une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec localement des vents à 130 km/h et des chutes d'arbres. 49 000 foyers restent privés d'électricité ce matin. Le temps de ce mardi reste donc lourd et orageux du sud-ouest jusque vers le massif alpin. Météo France place 5 départements en vigilance orange aux orages. L'Ardèche, le Gard, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère sur la moitié nord du pays. Le soleil en revanche s'imposera. Les températures minimales affichent ce matin de 11 à 17 degrés, de 17 à 24 degrés de Midi-Pyrénées au sud-est.
Merci beaucoup Claire Flochel. Il est 8h15 sur France Culture.